La surveillance éclairée du développement neurologique de tout nourrisson est une nécessité. Qu'il s'agisse du jeune enfant normal, et qui doit donc le rester, ou du nouveau-né à risque élevé. En ce cas, la crainte de séquelles, présumée sur de lourds antécédents, peut fausser le diagnostic trop hâtivement porté sur un seul symptôme ou un seul groupe de signes. Comme ici, où une suite de symptômes spécifiques évoque une infirmité motrice cérébrale. Or, l'enfant n'a que 4 mois et ses signes sont trop précoces pour être définitifs. Il faut surveiller leur évolution. Et de fait, l'enfant ne restera pas l'infirme moteur qu'il paraissait être. L'apparition de ce syndrome pose en effet un problème difficile. Avant de l'aborder, il nous faut le définir avec rigueur. Il ne doit pas être confondu avec une encéphalopathie globale, sévère, définitive, ni avec une débilité mentale associée à quelques troubles moteurs. Il n'est pas non plus un polyhandicap avec son égale gravité dans l'atteinte motrice et psychique, ni la séquelle d'une simple atteinte périphérique, à type par exemple de paralysie obstétricale sévère, dont les symptômes sont immédiats, isolés, d'emblée à leur paroxysme et à traiter aussitôt par orthopédie. Le cerveau est constamment indemne. Comment conduire l'exploration neurologique d'un nourrisson si l'on veut dépister l'infirmité motrice cérébrale à temps et avec certitude? Premier cas, cette ancienne prématurée présente à 7 mois de vie un ensemble de signes graves, mais non spécifiques, d'une entité précise. C'est la longue période d'incertitude. Outre la raideur globale, avec main fermée en poing, son examen révèle des mouvements de tête rares et difficiles, un moreau explosif, intense, durable, témoignant de la grande excitabilité. L'enfant est figé, momifié, car tout mouvement spontané ou même provoqué est bloqué par la rigidité. Et cependant, contrairement à toute attente, l'angle des adducteurs est bien ouvert. La raideur est moins intense aux membres inférieurs qu'ailleurs. Lors de la position debout, l'appui plantaire est normal, sans échinisme. En position ventrale, l'enfant, trop rigide, ne peut ni dégager son nez, ni avancer les bras. Le développement psycho-affectif est très pauvre, l'intérêt visuel presque nul. En âge corrigé, l'enfant a pourtant 5 mois. À l'épreuve du tiré assis, elle ne cède nullement. La tête ballante oscille, tout freinage est impossible. La poursuite de l'examen révèle cependant que le tonus passif est normal. Le bilan est donc celui-ci. Raideur généralisée, prédominante à la moitié supérieure du corps, main en poing fermé. Hyper-excitabilité, irritabilité intense. Retard global, marqué dans tous les domaines. Que va-t-elle devenir? Une encéphalopathe? Une enfant polyhandicapée, nous ne saurions le dire. Mais on intensifie la rééducation motrice, entreprise précocement. 2 mois après, l'éveil psychosensoriel s'installe. La poursuite oculaire est prolongée, mais les mains sont encore fermées en permanence, ne permettant aucune préhension. D'ailleurs, l'objet placé dans la main ne suscite aucun intérêt. « Le linge déposé sur le visage reste sans effet. Les mains sont inactives. L'enfant est aussi momifié que précédemment. Le tonus passif reste normal. Et son exploration révèle surtout la persistance de l'excitabilité. Ce symptôme devient majeur. Autre signe grave, évident aux membres inférieurs, malgré un tonus passif normal, angle des adducteurs large, le tonus actif, lui, s'avère très anormal. Croisement des cuisses en ciseaux et échinisme sont apparus, ils sont intenses. Les rotuliens sont si violents qu'ils déclenchent une réponse contralatérale. Le clonus est inépuisable. En résumé, deux lignées de signes sont là pour nous orienter enfin vers le diagnostic définitif. D'une part, éveil psychoaffectif pauvre, excitabilité inchangée, mains encore en point. Ce sont des preuves de sévérité dans l'atteinte centrale. D'autre part et surtout, ils sont associés à un syndrome pyramidal net, apparu tardivement. L'atteinte du tonus actif prédomine car, malgré l'échinisme et le croisement des cuisses en ciseaux, les angles pieds-jambes et adducteurs sont normaux. Ce n'est donc qu'après 9 mois de vie que le diagnostic d'infirmité motrice cérébrale a pu être affirmé. Sa sévérité fait redouter de lourdes séquelles motrices, malgré la précocité d'une rééducation motrice intensive. L'étape suivante confirme nos craintes. L'atteinte motrice s'accroît. Le strabisme est important. Mais l'intelligence et l'affectivité se normalisent. Le diagnostic est certain. L'enfant a atteint l'âge crucial de 9 mois en âge corrigé. Or, ce cap est capital pour saisir la qualité de l'avenir. C'est à son décours que tout s'affirme ou s'infirme. Ici, l'on saisit parfaitement l'opposition entre l'atteinte motrice, qui reste majeure, et la bonne qualité du domaine psycho-affectif. Mais qu'en est-il des fonctions motrices et du syndrome pyramidal que nous avons vu apparaître? La raideur des membres inférieurs empêche la station assise. L'équilibre du tronc est nul, puisque lors des pulsions latérales, on constate l'absence de l'aptitude statique des bras pour parer la chute. L'exploration systématique montre combien l'angle des adducteurs reste ouvert malgré les pleurs. L'enfant a besoin de l'affection de sa mère, de se rassurer en dialoguant avec elle pour accepter la poursuite de l'examen. Et l'on observe alors que, malgré le bon tonus passif, vu par les angles explorés, l'échinisme s'est terriblement accentué. L'enfant est devenu un digitigrade avec un croisement des cuisses en ciseaux encore accru. Par contre, et dans le même temps, la raideur des bras a disparu. Les mains sont ouvertes, actives. Et en position ventrale, l'enfant a enfin acquis une motricité normale pour son âge. À la moitié supérieure du corps, le tonus s'est donc normalisé, mais les fonctions motrices ne sont pas apparues pour autant. La fonction parachutiste est encore totalement défaillante. Les fonctions motrices au niveau du tronc sont-elles bloquées par l'extrême raideur des membres inférieurs? Or, assise sur le rebord de la table, l'enfant doit être solidement soutenu. Toute équilibration est nulle. En effet, livrée à elle-même en position assise, l'enfant ne peut rien contre la chute lourde et brutale. Elle ne pense même pas à utiliser l'appui de ses mains placées latéralement. Ce sont vraiment les fonctions motrices qui ne sont pas apparues au niveau du tronc et des bras. Pourtant, l'appréhension de tout objet est excellente, mais elle dépend du domaine psycho-affectif qui, lui, est demeuré indemne. Aux membres inférieurs, la raideur est devenue si intense que, placée sur l'extrême pointe des pieds, l'enfant paraît soutenir tout le poids de son corps. En fait, les membres inférieurs ne sont que de simples tuteurs rigides. La vraie fonction motrice n'est pas apparue. Passé le cap difficile de 9 mois, L'aggravation progressive s'est enfin spontanément stoppée. Le strabisme intense gêne la vue, mais l'enfant est gai, enjoué, hyperaffective. Ses activités ludiques et idéomotrices sont normales pour son âge, compte tenu du handicap moteur, qu'elle accepte d'ailleurs fort bien. L'atteinte du tonus actif reste cependant majeure aux membres inférieurs et contraste avec un tonus passif subnormal. L'enfant suit attentivement le déroulement de l'examen. Elle en ponctue les temps successifs par ses vives réparties et participe activement à faire d'une exploration rituelle et fastidieuse une séance d'activité physique ressentie par elle comme un jeu. L'amélioration porte sur la disparition de l'excitabilité et les rotuliens eux-mêmes se normalisent. Il n'y a plus de clonus. Le syndrome pyramidal s'atténue. La voilà à 2 ans. C'est une enfant joyeuse, son langage est parfait. Si ses gestes sont encore lents dans leur déroulement, elle compense cette gêne par son application pour parfaire la dextérité de ses doigts. La pince pouce index est bien acquise. Par contre, la station assise reste toujours impossible. Et pourtant, compensant l'énorme syphose, l'appui des mains peut enfin être efficace. Toute participation à l'épreuve du tirer debout est nulle, tant la raideur des membres inférieurs est intense. Le syndrome de Little est inchangé. Croisement des cuisses en ciseaux, échinisme extrême, mais lors de la marche seulement, car au repos et pour la première fois, l'appui plantaire est solide, s'effectuant sur toute la plante des pieds. Bien qu'âgé de 2 ans, l'enfant est loin de pouvoir marcher, tant en raison de la raideur des jambes que par absence de toute fonction d'équilibration au niveau du tronc. Les phases d'épuisement indiquent la nécessité des temps de repos chez de tels enfants. Malgré la raideur et le retard des fonctions motrices, il y a un double progrès. Fonctions parachutistes et aptitudes statiques des mains sont enfin apparues. La marche sur les mains est excellente. Ce soutien du poids du corps, avec propulsion par mouvement alterne, prélude à la marche à 4 pattes qui sera très tardive. À 3 ans, on peut prévoir le caractère quasi définitif des séquelles motrices sévères, au seul niveau des membres inférieurs, chez une enfant rigoureusement normale par ailleurs. Au tronc, en effet, tonus et fonctions normalisées permettent enfin une station assise solide. Les gestes restent lents, si lents qu'ils deviennent parfois inefficaces lors des chutes que l'enfant ne peut empêcher. Elle a constamment besoin d'une aide, d'un appui. Elle est totalement incapable de s'asseoir seule. Elle a 3 ans. Sa marche reste difficile, même avec le soutien des 2 mains. Mais sa joie de vivre n'en est en rien altérée, et toute son intelligence est au service de l'aide constante qu'elle doit apporter à ses moindres performances motrices. Celle-ci progresse, certes, mais si lentement et au prix de tant d'applications persévérantes, que tout est conquête chèrement acquise. Un progrès en entraîne un autre, et la station assise, enfin possible, déclenche aussitôt une avance dans la survenue d'une autre fonction, l'équilibration. C'est parce que son intelligence est intacte ou valable que l'infirme moteur cérébral mérite d'être puissamment et longtemps aidé par la qualité de l'environnement et de la kinésithérapie. Mais en temps opportun, car amélioration ou sévérité des séquelles définitives dépendent bien davantage de l'importance de la lésion que de la précocité de la rééducation motrice. L'évolution de cet autre prématuré en est une preuve vivante. À partir d'un état grave et comparable au cas précédent, l'amélioration puis la guérison seront spontanées, la mère surchargée d'enfants ayant refusé toute rééducation. À 1 an, on est frappé par l'attitude permanente des bras fléchis avec mains fermées proches des épaules. Il n'y a ni aptitude statique des mains pour parer les chutes, ni équilibration du tronc. Rigidité des membres inférieurs et échinisme sont indéniables. Et cependant, ici aussi, le tonus passif est satisfaisant. Tous les angles sont ouverts, sauf l'enraidissement à la flexion du pied sur la jambe, qui est difficile, limité. Le Babinski est encore ébauché. Mais les rotuliens sont peu vifs. À 14 mois, l'attitude anormale des bras reste inchangée et la fonction parachutiste demeure encore absente. C'est donc le tonus actif qui est très perturbé. La souplesse du tonus passif est manifeste, comme on le voit ici. L'appui des mains est enfin apparu. Il permet la station assise et qui est immédiatement utilisée pour saisir, pour jouer. La raideur s'est atténuée et l'enfant passe aisément de la station debout à la position assise. La progression fonctionnelle a été soudaine car surviennent enfin l'aptitude statique des mains et la fonction parachutiste. Elles vont permettre la marche à quatre pattes. Désormais, l'activité ludique sera une aide constante pour parfaire la motricité et accroître le champ de l'expérience idéomotrice. Et tout devient rapide, l'enfant se normalise à grands pas. Le voici à 2 ans. L'examen méthodique contrôle la normalité absolue du tonus passif et tout particulièrement aux membres inférieurs. Or, dans le même temps, et ce contraste entre les deux composantes du tonus reste toujours aussi surprenant, on constate que seul le tonus actif est resté très atteint. Rigidité, échinisme. À 3 ans, bien que convalescent d'une maladie intercurrente, l'enfant a continué à progresser. Si la pince est rapide, elle se fait encore avec tous les doigts, mais lors d'un geste appliqué, elle est parfaite. L'activité ludique permet l'achèvement de tout acte entrepris. Le rapport entre deux choses est rapidement saisi. Le jeu opérationnel est aussi irréprochable que le langage. Du point de vue moteur, par contre, les changements de posture brusques déséquilibrent encore et la marche reste défectueuse. L'échinisme extrême est inchangé. Et pourtant, l'angle pied-jambe est petit, strictement normal. La marche digitigrade est difficile, mais les enjambées sont désormais possibles. Et l'épreuve du tirer debout est enfin bonne et rapide. Les progrès sont devenus si rapides que la normalisation est proche. Et de fait, 6 mois après, l'appui plantaire est enfin solide, encore associé à un génuflexum de compensation, qui, à son tour, s'estompera spontanément. À 4 ans, il n'y a plus aucune trace de ce qui fut une infirmité motrice cérébrale, grave encore à 18 mois. Première forme, le syndrome de Little ou diplégie spastique. C'est le cas des 2 enfants que nous venons de voir. La 2e forme, rare selon notre expérience, est l'hémiplégie vraie, atteinte motrice d'un seul hémicorps. Elle est exceptionnellement d'origine néonatale et ne doit pas être confondue avec les vestiges d'un hémisyndrome qui, lui, est d'origine rachidienne et non cérébrale. Chez l'ancien prématuré, ces séquelles sont ou partielles ou transitoires. Ainsi, chez cet enfant de 15 jours, les symptômes sont caractéristiques. La teinte grave. Avec l'opisthotonos et la raideur proximale des membres, les signes oculaires prédominent. Fixité soudaine des globes, strabisme, puis acuité du regard, par hypertonie des releveurs de la paupière. Paroxysme, enfin. C'est la crise oculogire. La crise diffuse aux doigts, à tout un bras qui s'élève lentement, et la force de contraction tonique est si intense qu'il se bloque. Puis les mouvements anormaux reprennent, se déroulant très lentement. Ils se généralisent. Le cou ébauche un spasme de torsion. La tête se rejette en arrière. Avant de recommencer encore. Et la crise s'estompe. Mais les signes oculaires s'éteignent les derniers. Le cas est grave, l'avenir de l'enfant paraît bien compromis. Et cependant, le voilà à 9 mois. Que reste-t-il ? Un retard moteur important, un regard hagard avec des phases d'acuité soudaine, des mouvements anormaux de la bouche et un début d'athétose aux doigts et aux membres supérieurs. À 1 an, les signes résiduels sont très estompés. Le retard moteur s'est comblé, les gestes sont devenus précis, l'intelligence parfaite. Bref, il ne restera qu'une hypoacousie qui nécessitera prothèse et aide orthophonique prolongée. Cet autre cas est impressionnant. L'intelligence normale est associée à une atonie massive. À 6 mois, le pronostic moteur est sombre. Tout mouvement volontaire est impossible. À 9 mois, même fortement soutenu en position assise, l'enfant a la tête complètement ballante. Non soutenu, son tronc est totalement effondré. L'enfant est incapable de s'aider de ses mains. L'hypotonie est telle qu'il est aisé de rapprocher les fesses de l'occipital. Le redressement du tronc est nul, et pourtant le développement psychoaffectif est normal pour l'âge. L'appréhension est impossible. L'enfant s'intéresse à l'objet placé dans sa main et fait comprendre qu'il veut aussi le deuxième objet. Il ne faut pas s'y tromper, malgré l'impossibilité de tout mouvement, spontané ou volontaire, la vie psychique est intense. À 1 an, l'amélioration reste lente. Il faut largement soutenir la tête. À 2 ans, l'enfant est enfin capable de se maintenir assis à l'aide de ses mains avec une extrême syphose. Il peut cependant péniblement se hisser à demi-debout avec un appui solide. Et cependant, son intelligence est vive. L'ordre de mettre le doigt sur le nez est immédiatement réalisé et sans modèle. Malgré la dysarthrie, le langage se normalise à grands pas. Il aura donc fallu 9 ans de rééducation motrice intensive pour l'aider à mener enfin la vie normale des enfants de son âge. Seul vestige, légère ataxie cérébelleuse, incapacité de course et de saut, mais les performances scolaires sont enviables. Voici une forme clinique particulière. Après un état neurologique grave et global jusqu'à 10 mois, sont apparus à retardement et simultanément 2 lignées de signes, les uns pyramidaux, les autres cérébelleux. À 2 ans, malgré l'hyperlordose de compensation, la démarche est à la fois dandinante et sautillante, l'équilibre précaire. L'enfant manque le but désiré, mais elle recommence car, malgré le trouble cérébelleux, fait d'ataxie et de déséquilibre, elle est joueuse, gaie, hyperactive et intelligente. L'échinisme est manifeste. L'examen proprement dit révèle en effet une raideur importante à tous les segments. L'exploration est douloureuse. La flexion du pied-jambe est particulièrement difficile. Tous les angles sont pris. Mais les hanches sont libres. Debout et sans appui, L'enfant ne résiste à aucune pulsion. Un an plus tard, à 3 ans, la démarche est devenue très sautillante. Les rétropulsions apparaissent, témoin du syndrome cérébelleux qui persiste. Le strabisme droit est intense, provoquant troubles visuels et difficultés de fixation oculaire. Le nystagmus est vrai. Les signes pyramidaux sont retrouvés. Rotulien polycinétique. Angle pied-jambe trop ouvert et très enraidi. Signes de Babinski et Rossolimo sont patents. L'angle des adducteurs a toujours été respecté, il est normal. L'épreuve du doigt sur le nez ou sur l'oreille pour tester la précision du geste et la visée est immédiatement comprise et réalisée facilement. Pour cet enfant, c'est un jeu, mais la décomposition, la dysmétrie reste évidente. Voici l'enfant à 7 ans. Intelligence et scolarité sont normales. L'équilibre statique et même dynamique est bon. L'hyperlordose de compensation permet une marche facile, avec bon appui plantaire, enjambée égale. Les rétropulsions ont disparu. Les virages sont parfaitement accomplis. Mais avec la fatigue, l'échinisme réapparaît. Le saut à 2 pieds est parfait. Mais sur un seul pied, il est difficile à gauche avec grand déséquilibre. Il est impossible à droite. La station sur un seul pied est un risque de chute. Le syndrome cérébelleux persiste. Résistance nulle aux pulsions vers l'arrière, alors que la résistance est bonne aux poussées vers l'avant. Autre signe cérébelleux, la synergie des membres inférieurs. Ils s'élèvent au lieu de se plaquer au sol lorsque l'enfant veut passer seul et sans appui de la position couchée à la station assise. Elle est donc obligée d'utiliser ses mains pour y parvenir. De même, la dysmétrie persiste. Le talon manque de but précis du genou opposé. La diadochocinésie est mise en évidence. Outre les syncinésies d'imitation, elle démontre le trouble important restant à la main droite. L'épreuve du doigt sur le nez est devenue normale. Mais la décomposition reste nette à l'épreuve du doigt sur le lobule de l'oreille opposée. Quant aux signes pyramidaux, ils se sont atténués tant pour les réflexes rotuliens qui se normalisent, que pour l'extensibilité qui s'est très élargie. Seul, l'angle de flexion du pied sur la jambe reste très enraidi. C'est un vestige pyramidal isolé. À cet âge tardif, Chantal a 7 ans, ce sont les signes cérébelleux résiduels qui dominent. À l'épreuve du lancer, les membres supérieurs manifestent une passivité pathologique. Leur freinage s'avère impossible lors des mouvements transmis par l'agitation du bassin. Mais l'important est ceci. Spontanément et avec le temps, les séquelles sont devenues mineures. L'enfant mène une vie normale. Pouvait-on le prévoir tout au début de sa vie ? Chacun souhaiterait un dépistage précoce. Or, chez le très jeune enfant, tout est encore mouvant. Et le diagnostic définitif est sans cesse remis en question parce que l'évolution se fait en dents de scie, comme le montre ce dernier exemple. Un grand prématuré, détresse respiratoire sévère, accident neurologique répété, anoxie à 2 mois. C'est l'incertitude pronostique. À 10 mois, la tête est totalement ballante. Et l'aggravation neurologique se poursuit encore. Les mains sont en permanence rapprochées des épaules, les bras restant fléchis. Les membres inférieurs sont raidis en extension. Ce sont des tuteurs rigides qui ne correspondent pas du tout à une fonction acquise. C'est un faux soutien du poids du corps. Cela s'oppose à l'extrême hypotonie du tronc. Tout redressement est totalement défectueux, impossible. Et même le développement psycho-affectif n'apparaît pas. L'enfant ne connaît pas sa mère, il n'a aucun intérêt visuel. À ce stade, 10 mois, l'encéphalopathie paraît sévère, globale, définitive. Et cependant, à 15 mois, si les fonctions motrices restent défaillantes, sauf au niveau du cou, l'éveil psycho-affectif s'instaure. Une normalisation tardive paraît désormais possible. Mais à 2 ans, le diagnostic, encore une fois, a complètement changé. Il semble qu'une infirmité motrice cérébrale sévère, à type de Little, s'installe définitivement. Et pourtant, le psychisme s'altère. L'enfant ne sait et ne peut utiliser sa motricité pour accomplir le geste utile et efficace. Ici, les mains ne l'aident pas à se maintenir debout, à éviter la chute si l'appui se dérobe. Tout à fait inattendu, une amélioration survient pourtant à 3 ans. Elle est globale, à la fois motrice, puisque la station debout s'effectue avec bon appui plantaire, et psychique. L'intelligence s'est normalisée. Le langage et l'idéation sont rassurants. À 4 ans, la progression rapide s'accélère et le développement se normalise dans tous les domaines. L'enfant veut aller à l'école. Il se maintient debout et peut libérer ses mains pour jouer. Son langage est parfait. Il commence à marcher presque seul. À 6 ans et demi, il entre au cours préparatoire. C'est un enfant réfléchi, attentif, observateur. Et du point de vue moteur, il est normal. Nous sommes loin des diagnostics successifs. Arriération globale, polyhandicap grave, infirmité motrice sévère, puis petit syndrome de Little, pour parvenir finalement à la normalisation complète à l'âge de 6 ans. On dit l'infirmité motrice cérébrale particulièrement fréquente chez les anciens prématurés. Pourtant, dans ce groupe de 286 anciens prématurés suivis, elle n'occupe que 17% des atteintes motrices. Les atteintes motrices ne totalisent d'ailleurs que 42% seulement, contre 58% d'atteintes psychiques qui sont réellement dominantes. Dans ce même groupe de 286 prématurés, tous pathologiques lors de la période néonatale, 114 se sont normalisés. Mais à des vitesses extrêmement variables et souvent lentes. Des pics de fréquence apparaissent à 9 mois, 1 an, 2 ans et même 3 ans. En conclusion, de la naissance à 9 mois, c'est l'incertitude. Car les signes spécifiques de l'infirmité motrice cérébrale apparaissent progressivement et successivement. Et ils peuvent parfois, bien que très rarement, régresser spontanément. Ce n'est qu'entre 9 et 12 mois que le diagnostic s'affirme et se confirme. La forme et la sévérité de l'atteinte motrice dépendent essentiellement du siège et de l'étendue de la lésion cérébrale.